Alors, de plus en plus, dans le monde dans lequel on vit, il y a des inquiétudes, il y a des craintes. Et en fait, je voudrais revenir sur, faire un retour sur le message de notre frère Lionel, parce qu'il y a un passage qui m'a touché, interpellé. J'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet pendant la semaine. C'est le verset, c'est dans Marc 12, les versets 28 à 30. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, dans ce passage, il y a un scribe qui écoute Jésus, et à la fin de la prise de parole de Jésus, il lui pose une question. Quel est le premier de tous les commandements? Alors c'est vrai que moi personnellement, j'en avais entendu parler plusieurs fois, on me l'avait cité plusieurs fois, mais il y a une chose qui était passée à côté, et merci Lionel, parce que vraiment cette remise au point, je pense que c'est vraiment bénéfique. Voilà ce que Jésus répondit. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur. Notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que le scribe lui demande quel est le premier de tous les commandements. Et dans sa réponse, Jésus lui donne un premier commandement qui est en fait en deux parties. Et il y ajoute un second. Et il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc le second a aussi son importance, une grande importance. Pardon. Alors, dans le premier de ces commandements, j'ai dit qu'il y avait deux parties, et ça ne m'était pas apparu lors de mes premières lectures. La première partie, elle est courte, c'est « écoute ». Et là, d'un seul coup, ça a été une lumière. Hein. Et on précise « aime le Seigneur ton Dieu ». Écoute. Alors, je me suis dit, le faisons-nous ? La preuve que non, puisque moi, personnellement, je n'avais pas fait attention à ce mot « écoute ». Je ne l'avais pas entendu, je l'avais mal lu, je l'avais mis de côté. Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, dans notre monde, alors je ne juge pas ce qui se passe, je ne juge pas les personnes qui interviennent, hein, c'est juste un constat que je vais faire. Et je vais supposer que je ne suis pas chrétien, que je n'ai pas Jésus dans ma vie, qui n'occupe pas la première place. Alors qu'est-ce que j'entends quand je regarde les journaux, je lis les journaux, quand je mets la télé en marche, je regarde les informations, j'entends quoi? Je vois quoi? Eh bien, je vois des choses qui ne sont pas agréables, évidemment, hein, on le sait tous, mais je vois aussi des promesses qui sont faites. Je vois des promesses que nous font les hommes politiques avant d'être élus. Et après, ils nous disent « j'ai pas l'argent pour, j'ai pas l'équipe pour, l'adversaire agit contre moi, je ne peux pas intervenir, je n'ai pas la majorité », enfin ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça, ils ont plein d'excuses. Il n'y a pas qu'eux, hein. Il n'y a pas qu'eux qui ont cette attitude. On nous dit, apprenez un métier pour avoir un bon travail, apprenez tel métier, allez dans telle branche. C'est sûr, vous aurez un boulot. Et puis quand on a son diplôme, quand on sait travailler, on dit, bah non, c'est bouché. Hein. Et pourtant, on nous avait dirigé vers ça. Il n'y a pas de débouché. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues ou ne peuvent pas être tenues. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, c'est vrai, je vais être ironique, mais je vais dire, j'ai employé le terme « ça promet » quand on entend tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « ça promet » ? Ça ne veut pas dire que les promesses seront tenues. C'est ironique, hein, ce terme « ça promet ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on peut s'attendre au pire. Quand on nous dit quelque chose et que l'on rajoute derrière « ça promet », quand nous rajoutons derrière sa promesse, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il faut s'attendre au pire. Nous maîtrisons le climat, il n'y a pas de souci. On a fait des barrages, on a fait des canaux. Et puis là, en arrivant ce matin, j'ai vu que l'Oise débordait sur Boran, que dans d'autres villages, ça commençait à monter. On maîtrise. On vous promet, vous ne serez plus inondés. Et voilà, on ne maîtrise pas les éléments. Travaillez plus, vous aurez un meilleur salaire. C'est une promesse de patron, ça. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a peut-être qui le font, heureusement. Créez votre entreprise, on va la soutenir, il y a un débouché. Et puis on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a des gens qui sont au chômage. Des promesses, toujours des promesses. Il y a des entreprises qui sont en difficulté, des personnes qui se présentent pour reprendre ces entreprises. Ils disent aux employés, ne vous en faites pas, on va sauver votre entreprise. On va la sauver. Vous aurez tous un travail, on va tous vous garder. Et puis au bout de quelques réunions, ils disent « Ah ben non, là, on va garder que la moitié. Hein. » Il y a 50% de ces personnes qui se retrouvent au chômage. Des promesses, toujours des promesses. Ça promet. Actuellement, le monde est touché par cette maladie que vous connaissez, ce virus, la Covid. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? On va vous fournir des masques. Bon, là, on en a tous. Hein. Mais il y a eu un moment où il y a eu des difficultés pour en avoir. On va avoir des vaccins. Ah, on les a. On a les vaccins, mais on ne veut pas se faire vacciner. Il n'y en a pas assez. Des promesses, toujours des promesses. On veut nous rassurer. Et puis au bout, on est dans l'incertitude. Les promesses ne sont pas tenues. Alors, c'est vrai... Dès que l'on est enfant, en fait, on nous fait des promesses. Nos parents nous font des promesses. Si tu as des bonnes notes à l'école, je te ferai un cadeau. Bon, souvent, c'est tenu, ça, à condition qu'on ait des bonnes notes. Hein. On nous promet une vie meilleure. Ben, ça promet. Avec tout ce que l'on voit au niveau du climat, cette envie de gagner de l'argent, de produire, quelles que soient les conséquences. On nous promet, mais on ne tient pas les promesses. C'est vrai que il y a beaucoup de dirigeants qui disent les choses, qui les écrivent, mais ça en reste là. Si on reprend les prospectus des élections, je peux vous dire que si vous les avez gardés, regardez-les à nouveau, ça fait frémir tout ce qui nous était promis et tout ce qui n'a pas été tenu. Pas d'argent, pas de personnel, l'adversaire m'en empêche. Je ne juge pas, je ne veux pas être à leur place de toute façon. Alors c'est vrai, quand on entend tout ça, Quand on analyse tout ça, quand on voit tout ça, on peut être effrayé. Mais moi, je suis chrétien. J'ai Jésus dans ma vie. Et c'est vrai que je vois ces choses. Parfois, ça m'inquiète. Mais tout de suite, je me tourne vers le Seigneur. Et je me suis rendu compte d'une chose. Je me tourne vers le Seigneur, je m'adresse à lui, je lis sa parole. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'elle ne contient que des promesses, en fait. Que des promesses. Et toutes, elles se réalisent, ces promesses. Je dirais, une promesse, que vaut-elle s'il n'y a pas de ou des témoignages pour affirmer que cette promesse s'est réalisée? Je le disais tout à l'heure, à l'instant, dans la Bible, il y a une multitude de promesses. Si on la lit bien, on se rend compte que c'est une suite de promesses. Une multitude de promesses, mais une multitude aussi de témoignages qui disent, qui nous disent, qui nous affirment que ces promesses se sont réalisées. Et ça, ça fait du bien. Une multitude de témoignages. Alors, qu'est-ce qu'un témoignage? Vous savez que j'aime bien donner des définitions. Témoigner, un témoignage, c'est l'action de témoigner. C'est attester, certifier. C'est donner un compte-rendu de ce que l'on a vu ou entendu. Et je voudrais donner aussi une définition du mot promesse. Une promesse, c'est l'action de promettre. C'est un engagement contractuel. Alors, je suis bien placé pour le savoir, puisque mon métier, c'était agent immobilier. Et des promesses, j'en rédigeais régulièrement, souvent. Alors, dans les promesses de vente, il y a toujours des conditions. Une promesse de vente n'est pas obligée de se réaliser. Mais ça, c'est autre chose. C'est propre à mon métier, à mon ancien métier. Promettre, c'est s'engager envers quelqu'un à faire quelque chose ou à lui donner quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des expressions qui sont bizarres, amusantes, je dirais. Des fois, on dit on promet la lune. Ça veut dire que on promet l'impossible. On donne de grandes on donne de grands espoirs, de grandes espérances. Je crois que aujourd'hui, le monde nous promet la lune. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand on prend l'expression « ça promet », sa promesse, ça veut dire on peut s'attendre au pire. Alors, il y a aussi des termes comme « promis » ou « promise ». Et ça, c'est bien parce que nous savons que nous sommes promis et promises au Seigneur. Promis, promise, ça veut dire le fiancé, la fiancée. Nous faisons partie de l'Église et nous sommes la fiancée du Seigneur. L'Église est la fiancée du Seigneur, la promise du Seigneur. Puis on dit aussi cette expression que beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants devraient s'en inspirer. On dit « chose promise, chose due ». Je crois qu'il n'y a que le Seigneur qui respecte cette phrase. Puis il y a aussi, dans la définition de promesse, il y a, et de promise, il y a la terre promise. La terre attribuée par Dieu aux Hébreux. Cette mention de promesse, la terre promise, ça m'a réchauffé quand j'ai vu ça dans le dictionnaire. Mais je voudrais revenir justement à la Bible. En la parcourant, en la lisant, en la malaxant, en la ruminant, comme aime nous dire Jean Robert, on pourrait passer notre journée entière, peut-être même plus, à répertorier, les promesses et les témoignages attestant de ce que Dieu a promis et réalisé. Je me suis rendu compte qu'il y a des passages, j'étais passé dessus, et je ne m'étais pas rendu compte que c'était des promesses, que c'était une promesse, ou que c'était un témoignage d'une promesse réalisée. Alors, on va en prendre quelques-unes, parce que c'est important de les voir, pas toutes, puisque je vous ai dit, on pourrait y passer la journée. Vous pouvez le faire chez vous. Hein. Moi, j'ai commencé à regarder. Alors, en voici quelques-unes. Et la première qui m'est venue à l'esprit, sans ouvrir la Bible, c'est dans la Genèse 17, c'est la promesse faite par Dieu à Abraham, qui deviendra Abraham. Dieu lui dit, je te multiplierai à l'infini. Waouh ! Ça, c'est quelque chose, quand on y réfléchit, je te multiplierai à l'infini. Et ça, c'est réalisé. Dans Jérémie 29, les versets 13 et 14, une partie du 14, la première partie du 14, il nous est dit, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Ça, c'est une sacrée promesse. Je me laisserai trouver par vous. Encore faut-il le chercher de tout son cœur. Dans Jacques 4, le verset 8, Jacques 4, le verset 8, il nous est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors ça, c'est pour moi une promesse et aussi un témoignage. Dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, il nous est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça aussi, c'est une belle promesse. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris, écoutez. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi. Encore une promesse. Le résultat de venez à moi. Quelle promesse. Du repos. Il y a une promesse qui nous est faite par le Seigneur. Je ne l'ai pas notée. Je n'ai pas cherché la référence, mais je vais vous la communiquer. Cette promesse, c'est que si l'on vient à lui et que l'on est souffrant, que l'on est malade, il nous guérit. Il peut guérir toutes nos maladies. Ça, je le dis pour une personne qui s'est confié à moi tout à l'heure, ça ne va pas, tu es souffrant, souffrante. Dieu peut te guérir totalement. C'est une de ses promesses. Et il l'a réalisé maintes et maintes fois, on le voit dans la parole. Alors je vais revenir quand même au premier commandement, à ce mot qui nous est communiqué, écoute. Je me dis, mais ça veut dire quoi, écoute ? Ça veut dire quoi ? Et je me suis souvenu que lorsque j'étais enfant, lorsque je faisais une bêtise, ça m'est arrivé souvent. Vous n'écoutez pas, hein, ceux qui sont les plus jeunes. Ça m'est arrivé souvent. Et lorsque mon père me prenait à part pour me parler, pour me sermonner, qu'est-ce qu'il me disait ? Écoute-moi. Écoute-moi. Ça voulait dire calme-toi, dans un sens. Écoute ce que je vais te dire. Écoute, je crois que j'en ai compris le sens, ça veut dire entends ce que je te dis, comprends ce que je te dis et obéis à ce que je te dis. Écoute, ça veut dire entends, comprends, obéis. Écoutons le Seigneur, entendons-le, comprenons ce qu'il nous dit et obéissons. Alors c'est vrai, je vous ai dit, nous n'allons pas voir toutes les promesses que contient la Bible, mais quand on la lit, quand vous la lirez, lisez-la comme une promesse. Alors je dirais que pour moi, il y a un passage de la Bible qui résume totalement les promesses de l'Éternel. C'est le psaume 23. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, je l'ai ressenti de cette manière. Alors je sais que Jean-Robert a prêché il y a quelque temps sur ce psaume. Bon, moi, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais voilà ce que j'y trouve. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un témoignage là qui est donné par David. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chemins de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. D'autres versions disent me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il dresse la table devant nos adversaires. Il ne nous laisse pas tomber. Si on est avec lui, il est là. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Vraiment, moi, je pense que lorsque David écrit ce psaume, il rend témoignage. Il y retranscrit ce qu'il a constaté, ce qu'il a vécu. Et je dirais que, comme toutes les promesses de l'Éternel ont été tenues, je dirais qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute le sixième verset, le dernier de ce psaume. J'y reviendrai tout à l'heure, il est important. Il y a une grande promesse que l'on a en Jésus-Christ. Et je vais vous dire, je l'ai fait mienne. C'est dans Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, le verset 20 nous dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, ce verset, il m'a accompagné toute ma vie. Il m'a accompagné toute ma vie. Je vais vous apporter quelques témoignages à ce sujet, sans prétention de ma part, c'est ma vie. Il y a quelques temps, en feuilletant un album de famille, il y avait des photos de moi bébé. Et je vais vous dire, ces photos, ben, je ne les ai pas du tout aimées. Parce que on voit des photos de bébés, des bébés tout potelés, souriants. Ben, moi, ce n'était pas le cas. J'étais tout maigre. La peau sur les os, les yeux qui sortaient un petit peu de leur orbite. Quand je regarde ces photos, je me dis, on dirait un petit animal. Maigre, tordu. Mais je me dis que peut-être avec les moyens qui existent aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas permis que je vive. Mais je suis là. Et je me dis que j'avais cette hargne de vivre. Elle était en moi. Maintenant, j'analyse que c'est en fait le Seigneur qui agissait. Ma maman me disait que très jeune, avant l'âge normal, je me suis mis à marcher. Et que, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas en très très bonne santé. J'étais souvent à l'hôpital lorsque j'étais bébé, lorsque j'étais petit. Et à l'hôpital, ma maman avait dit aux médecins, aux infirmiers, il faut l'attacher, parce que sinon il va sortir de son lit. Alors je ne savais pas marcher. Alors ça les a fait rire, mais quand mes parents sont revenus le lendemain, j'étais attaché dans le lit parce que je m'étais dressé et je voulais être dressé, je ne voulais pas être couché. Vous savez que dans la savane, lorsqu'un animal naît, la naissance d'un animal, girafon, antilope, sa survie, c'est de se dresser, de marcher immédiatement. S'il reste au sol, les prédateurs, c'est une proie. Il ne pourra pas s'en sortir. Eh bien, je me dis que j'étais comme ça. Il fallait que je me dresse. Bon, après, dans ma jeunesse, je dirais, ma petite enfance, j'ai vraiment été protégé par le Seigneur. Je me suis retrouvé, suite à un jeu, enfermé dans une malle. On m'a retrouvé, j'étais presque en train de mourir d'asphyxie. Je jouais avec un voisin et ses parents avaient creusé une grande fosse. Et je ne sais pas comment ça est arrivé, pourtant on avait eu des recommandations, mais on n'avait peut-être pas écouté. J'ai été poussé dans cette fosse. Je suis tombé à la renverse, je m'en suis sorti avec des blessures dans le dos, parce qu'il y avait des silex au fond, mais j'étais vivant. Et plus le temps passe, plus je me suis dit que tout ce qui m'est arrivé, il y avait le Seigneur qui était avec moi. J'avais cette promesse, je suis tous les jours avec vous, je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Après, plus tard, j'ai côtoyé, dans ma petite enfance aussi, des personnes qui étaient victimes de l'alcoolisme. J'ai vu cette violence. J'ai fait partie d'une bande qui a fait des choses pas très bien. J'avais toujours une retenue, quand même. J'ai côtoyé le milieu de la drogue. J'en ai jamais touché. Mais j'avais des amis qui pratiquaient. J'ai vu le résultat. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont devenus des épaves. Et je pense plus particulièrement à un qui est mort d'une overdose et qui a été abandonné devant une porte par ses collègues. Alors j'ai côtoyé des milieux d'extrême droite aussi. J'étais très proche d'eux. Mais à un moment, avec eux, je vais donner quelques détails. C'était intéressant, c'était des gens sur lesquels on pouvait compter. C'était assez amusant, quand j'y réfléchis maintenant. J'aurais eu un problème avec quelqu'un, je les appelais, ils venaient tout de suite. Bon, avec des buts, pas très sympathiques, c'est vrai. Avec eux, j'ai appris à lancer les couteaux. J'étais assez doué. Tirer à l'arbalète. Et j'allais commencer à entrer dans le milieu où on allait se servir d'armes à feu, mais là, je suis parti. Le Seigneur m'a retenu. Je côtoyais des personnes qui avaient en permanence dans leur coffre des cocktails Molotov. Le Seigneur m'a fait voir ça, mais il m'a retenu. J'étais très proche d'eux et ils m'ont montré des choses. C'est des choses pas bien, désagréables, quand on y réfléchit maintenant. J'ai vu, mais le Seigneur m'a retenu. Dans le métier que j'ai fait, il y a des patrons qui m'ont demandé de faire des choses illégales. J'ai refusé. J'ai perdu mon travail avec l'un d'eux. Le Seigneur m'a éclairé, il m'a retenu. Puis j'ai plein d'autres exemples comme ça. Je me souviens, dans mon métier, un jour, un monsieur est venu. Il m'a demandé de lui trouver une grande propriété, un peu éloignée, à l'écart. Et il m'a dit, voilà, je cherche un lieu comme ça. C'est pour recevoir des hommes politiques qui ont besoin de se ressourcer, de se reposer. Bon, il faut que ce soit un endroit discret parce qu'il y aura des dames à cet endroit. Et si vous me trouvez cet endroit, ben vous pourrez venir, ce sera gratuit pour vous. J'ai refusé. J'ai perdu une grosse affaire, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas entrer dans ce milieu, le Seigneur me retenait. J'ai plein d'autres exemples comme ça. Et je me dis vraiment, dans beaucoup de cas, j'ai vu beaucoup de choses. Des choses pas belles. J'ai passé la tête, j'ai regardé, et le Seigneur m'a retenu. Je me rends compte maintenant. Je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, aujourd'hui je lui rends grâce pour cela parce que je ne serais pas où je serais maintenant, je serais peut-être plus là d'ailleurs. J'ai un ami avec qui j'ai toujours des rencontres. Cet ami, il tenait un bar, il a été receleur pour une bande qui faisait des cambriolages. Il a été proxénète, il a fait de la prison, j'étais très proche de lui. J'aurais pu m'associer avec lui. Je ne l'ai pas fait. Le Seigneur m'a retenu. Je le sais maintenant. Il m'a retenu. Il y avait ce pas. C'était pas par crainte que je ne faisais pas ses pas. J'étais retenu. Je me souviens un jour avoir rencontré une personne qui faisait des manipulations soi-disant paraît-il, qu'elle guérissait, qu'elle pouvait apporter du bien-être aux personnes juste en passant ses mains derrière. Et j'étais dans ce groupe et je dis, tiens, bah, tu peux essayer avec moi, je ne me sens pas bien. Elle s'est mise derrière moi, cette personne, et au bout d'un certain temps, elle m'a dit, non, avec toi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Maintenant, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai eu des clients qui étaient vraiment d'une douceur. C'était un couple d'une douceur. C'était des personnes avec une présence. Ils étaient habillés tout en blanc. Alors, j'ai rencontré ce couple. Ils se sont devenus mes clients. J'ai vu qu'après, il y avait du monde autour d'eux. J'ai compris que c'était une secte. Alors, je suis intéressé quand même, je veux savoir. C'est mes clients, je veux savoir ce qu'ils vont faire. Et donc, on a parlé ensemble, ils m'ont expliqué des choses. Et puis, ils voyaient mon questionnement et celui qui dirigeait, qui avait une main sur cette secte, il m'a regardé et m'a dit, mais toi, c'est même pas la peine que tu nous demandes de venir, on ne veut pas de toi. Merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu as été tous les jours avec moi. Et tu y seras jusqu'à la fin du monde, je le sais. Je vais arrêter mes témoignages parce que bon, vous allez dire, quelle drôle de vie il a eue. Quelque part, je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir tout cela parce que je peux rencontrer des personnes qui ont ce même problème et je peux dire oui, je sais, je connais, j'ai vu, c'est pas bien, c'est mauvais, il n'y a pas d'issue si vous allez dans ces endroits. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 1, 2 Timothée, chapitre 1, verset 1, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, il nous dit selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, et selon cette promesse, il nous recommande, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, verset 8, 1 Timothée 4, verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » La piété est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Piété, ça veut dire quoi? La piété, c'est la dévotion à Dieu. Le dictionnaire nous dit attachement aux pratiques religieuses. Alors moi, je comprends attachement aux commandements de Dieu. La piété, c'est le respect, l'affection, l'attachement, la tendresse. Affection, affectif, c'est une émotion, un sentiment. Et il y a un mot que je ne connaissais pas, c'est affectionné. Affectionné, ça vient d'affection, donc ça découle de la piété. Et ça veut dire aimer, chérir. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, il nous est dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le verset 14 nous dit « Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, nous devenions participants à la nature divine. » Je vais relire ce passage. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, au pluriel, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles nous devenions participants à la nature divine. » Dieu est éternel. Éternel, c'est l'un de ses noms. Sa nature divine, c'est l'éternité. Et Dieu nous promet que nous devenions participants à cette nature divine, à cette éternité. Alors c'est vrai que on a fait allusion à pas mal de promesses, mais il y en a une qui est plus importante que toutes. Et on la trouve dans 1 Jean 2, le verset 25. Dans 1 Jean 2, verset 25, il nous est dit « Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. » Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Alors je vais reprendre, écoute, obéis, entends, comprends, obéis. Dans Acte 2, verset 39, il nous est dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » En aussi grand nombre. On n'est pas au complet, là. C'est dans donc, Acte 2, verset 39. Dans Galates 4, le verset 28, il nous est dit, Galates 4, 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » La promesse, elle est pour nous. Elle est pour nous, la promesse. Avec tout ce qui se passe, moi, je pense que le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il nous est dit, le Seigneur, donc 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Là aussi, c'est une promesse. C'est vrai que je vais finir par une série de passages de la parole, et je pense que c'est important d'en prendre connaissance. Dans Jean 14, les versets 2 et 3, il nous est dit, Jean 14, versets 2 et 3, et ça c'est rassurant ce passage. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la nature divine, ça. C'est ce qui nous est promis, d'être avec lui. Alors moi, je voulais vous dire, c'est aussi valable pour moi, bien sûr, ne tardons pas, soyons attentifs, éveillés, soyons prêts. Soyons prêts. Je vais finir par ce passage rassurant, réconfortant, qui est dans Jean 14, le verset 8, où Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Il finit ce verset par « Je viens vers vous ». Je viens. Ce n'est pas « je viendrai un jour, je viendrai ». Je viens. Je viens vers vous. Alors je vais vous dire, écoutons les promesses. La plus grande promesse du Seigneur, car il y a une certitude, l'Éternel les tient en son temps. Ces promesses, elles sont remplies d'espoir, de paix, d'amour, contrairement à toutes celles que le monde peut nous donner, peut nous promettre. Elles sont remplies d'espoir, de paix, d'amour et d'éternité. Alors je vous dis, mes frères, mes sœurs, soyez sans peur, sans terreur, car nous avons accès à cette grande promesse, celle de la vie éternelle. Amen.